Quelques versets pour accompagner notre méditation ce matin, que je puise dans l'Évangile selon Marc. Le chapitre 3 sera l'occasion d'entendre un récit qui nous permettra, en cette veille de fête nationale, de repenser l'un des maître mot de notre République, la fraternité. Plus que la fraternité, il sera aussi question donc de filiation. Dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Marc, je vais vous lire les versets 20 à 22, puis 31 à 35. Jésus et les disciples revinrent à la maison. Le texte grec dit qu'ils entrèrent jusque dans la maison, et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté, il s'agit de Jésus, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il existe ». Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ?» Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Seigneur, ta parole est pour nous source de la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Toujours dans notre psentier, continuons à chanter le psaume 107. Nous chanterons les strophes 5 et 8 du psaume 107. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, ni accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elle soit semence pour toute notre vie et nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, voilà bien une expression des plus ordinaires dans notre vie d'Église. C'est ainsi qu'a commencé notre culte. Il y a fort à parier que c'est ainsi qu'il s'achèvera. Nous employons volontiers le terme de frère ou de sœur pour nommer celui qui se tient avec nous dans la communauté chrétienne, qu'il soit un chrétien de longue date ou quelqu'un de fraîchement baptisé. Le frère, la sœur, sont des expressions usuelles, on ne peut plus usuelles, que nous utilisons de façon tout à fait machinale, sans forcément réaliser à quel point cette expression est subversive, à quel point elle met en question les structures fondamentales de l'anthropologie populaire, populiste, c'est-à-dire à quel point elle interroge l'identité humaine en remettant en question la filiation naturelle. Ce texte nous propose d'interroger cette question-là, je vous propose de suivre le texte, et de réformer éventuellement notre compréhension de la filiation et donc de la fraternité. Tout commence par un choc que les copistes, puis les traducteurs, se sont efforcés d'atténuer. En effet, la parenté de Jésus, que certains copistes ont essayé de remplacer par les scribes et les autres, c'est le cas du codex de Bèze, vient pour saisir Jésus, car ils disent, selon les traducteurs, que je n'ai pas suivi, il est hors de sens. Ce sont les traductions de Darby et de Segond. Il a perdu la tête, traduction œcuménique de la Bible. Ou encore, il a perdu le sens, Bible de Jérusalem. L'évangile selon Marc, le plus ancien des évangiles retenus dans la Bible, nous offre une version autrement plus crue, plus choquante lorsque nous l'entendons dans sa forme originelle. Puisque les parents de Jésus disent la raison pour laquelle ils veulent le saisir de la manière suivante, il existe. Pourquoi veulent-ils le saisir ? Oui, même moi je suis ému par cette question-là. Ils veulent le saisir parce qu'ils disent que Jésus existe. Le reproche, c'est que Jésus existe. Jésus existe et ça ne peut plus durer. Si nous nous souvenons qu'au verset précédent, Jésus vient d'entrer dans une maison, que ses parents disent qu'il existe, est d'autant plus frappant qu'exister signifie se tenir hors d'eux. On reproche à Jésus de se tenir dehors, lui qui vient d'entrer dans une maison. La scène du conflit entre Jésus et sa famille biologique est bien campée. Il lui est reproché de ne pas tenir la place que sa famille lui avait attribuée. Jésus sort de la destinée qui lui avait été assignée. Il va jusqu'à entrer dans une nouvelle maison, ce qui, dans la pensée antique, désigne aussi bien le bâtiment que la famille. Il suffit dans notre langue de penser à la question de la maisonnée, qui désigne aussi ceux qui habitent dans la maison. La famille biologique n'accepte pas que Jésus soit entré dans une autre famille. Et elle décide donc de le saisir pour le remettre dans le ghetto familial, un ghetto qu'il n'aurait pas dû quitter selon eux. Ces premiers termes du conflit nous aident à mieux comprendre l'origine de nos propres conflits familiaux. Et les traducteurs qui ont interprété l'expression « il existe » par tout un tas de subterfuges nous apportent leur contribution personnelle. Et à leur manière, ils disent juste sur nos propres revendications et nos propres précompréhensions. Lorsque nous disons de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos cousins, qu'ils ont perdu la tête, ou qu'ils ont perdu le sens des responsabilités, qu'ils ne sont plus eux-mêmes, qu'ils sont hors d'eux-mêmes, n'est-ce pas d'abord le constat qu'ils sont là où nous ne les attendions pas ? N'est-ce pas d'abord une manière de dire qu'ils ne correspondent plus à l'image que nous nous en faisions ? Ou, pour être encore plus précis, ils ne font pas ce que nous attendons d'eux. Et le problème, c'est eux, bien sûr, c'est pas nous. La liberté de l'autre nous pose toujours problème. Parce que le premier effet de la liberté de l'autre, c'est de nous renvoyer à nos propres enfermements. La liberté de l'autre pose toujours problème, surtout lorsque nous ne nous sentons pas libres nous-mêmes. Lorsque nous nous sentons, par exemple, prisonniers des liens biologiques. Lorsque nous ne vivons que pour maintenir l'image modèle d'une famille idéale, qui, soit dit en passant, ne figure pas dans les textes bibliques. Les textes bibliques ne présentent pas un modèle familial à l'exclusion d'un autre ou de plusieurs autres. Le modèle familial idéal n'existe que dans l'imaginaire des générations qui le construisent au fur et à mesure des époques. Et donc, lorsque nous nous sentons prisonniers de cette sorte, dès qu'un individu prend quelques libertés, cela devient vite insupportable. Et la seule façon de pouvoir supporter cela, c'est de le saisir et de le ramener à de meilleurs sentiments. Notre première réaction, c'est de ramener à la bergerie la brebis qui s'en va. Contrairement au père de la parabole de l'Évangile selon Luc, qui, lui, laisse aller le fils cadet. Alors que l'aîné, lui, est prisonnier des liens du sang. Et si on se souvient de l'Évangile selon Luc au chapitre 15, on sait quelles sont les frustrations qu'il va nourrir, jusqu'à ce que le conflit éclate finalement. Ce passage biblique révèle que notre compréhension du réel est parfois contaminée une fois de plus par le narcissisme. Le fait de tout évaluer, de tout analyser à partir de soi. C'est ce que fait la famille de Jésus. Elle pense la trajectoire de Jésus à partir d'elle-même, de ses catégories, de ses références. Les parents de Jésus pensent qu'il est en dehors alors qu'il vient d'entrer dans une maison. Cela montre bien qu'ils veulent dire par là qu'il est hors de leur pouvoir, hors de leur sphère d'influence, et que ça, ils ne le supportent pas. Oui, Jésus existe. Jésus est hors de Jésus, au sens où il est hors du Jésus que sa famille s'est idéalisé. Jésus est un homme libre, qui est sorti du ghetto de la famille biologique. Il n'est pas perdu pour autant, il est juste entré dans une autre maison. Et dans cette nouvelle maison, l'identité familiale est pensée en d'autres termes que le biologique. Et la subversion est ici. Alors que la famille biologique de Jésus considérait avoir un droit sur lui, le fait de vouloir le saisir signifiant bien l'idée qu'ils avaient la mainmise sur lui, une sorte d'emprise, Jésus neutralise toute idée que les liens du sang octroient le moindre droit. Et il va plus loin en posant qu'il y a des liens qui sont plus vrais que les liens du sang, puisqu'il affirme que la foule qui se tient autour de lui est sa famille véritable. Arrêtons-nous un instant sur cette scène et actualisons-la. Je me tiens au milieu de vous, et je puis affirmer, d'autant plus facilement que ma famille biologique est un peu en vacances actuellement, que vous êtes ma famille réelle. Mais elle serait là, je dirais la même chose. Vous-même, vous êtes en mesure de vous tenir là, au milieu, et d'affirmer également que votre famille réelle est là, alentour. Ceci pour dire que la foi chrétienne n'accorde pas de valeur supérieure à la consanguinité. La foi chrétienne n'accorde d'ailleurs pas plus de valeur à la religion, à la région, à la nation ou à la moindre délimitation tracée à main d'homme. Paul le rappellera, l'identité de l'être humain qui se place devant Dieu transcende aussi bien le sexe que la nation, que la culture, que la religion. Et nous pourrions continuer la liste. Se tenir devant Dieu, c'est précisément sortir de son narcissisme. Étant entendu qu'un groupe, une société peut être collectivement narcissique. Le nationalisme est un narcissisme. L'intégrisme est un narcissisme. L'égoïsme est un narcissisme. Le protestantisme est une forme de narcissisme. Le libéralisme est une forme de narcissisme. Il y a un moment où ces identités doivent éclater. C'est ce que Jésus fait ici même, un acte de subversion. Revenons à la scène de l'évangéliste, justement. On dit à Jésus que sa famille se tient dehors, ce qui montre bien que le dehors, le dedans, est très relatif, puisque la famille de Jésus estime que c'est Jésus qui est dehors. Vous voyez, il y a ici un formidable quiproquo qui n'est pas sans faire penser au propre quiproquo que nous affrontons parfois. Des quiproquos qui ont lieu à chaque fois que les interlocuteurs adoptent des référentiels différents. Ce qui est dehors pour l'un peut être dedans pour l'autre. Ce qui peut être une cause d'angoisse pour l'un peut être un bol d'air frais pour l'autre. Ce qui peut être la fin d'une histoire pour l'un peut être le début d'une histoire pour l'autre. Et il en va de même pour la question de l'identité. Jésus va s'efforcer d'opérer un changement de référentiel. Ici, l'identité cesse d'être déterminée par le passé, par la naissance, par la certitude du sang ou le milieu social d'origine. L'identité dans la perspective de Jésus est construite à partir de notre présent et de ce que nous en faisons. Ce qui est extrêmement libérateur en soi. Que notre identité soit détachée du passé, ou du moins qu'elle ne soit pas entièrement conditionnée par le passé, car il ne s'agit pas de faire comme si nous n'avions pas de passé, il s'agit juste d'en être libre. Que notre identité donc soit détachée du passé a pour conséquence que notre identité n'est plus figée. Nous ne sommes plus seulement ce qu'on a bien voulu faire de nous. Il peut aussi y avoir de l'acquis, comme on dit par ailleurs. Du coup, il est possible de naître dans un milieu non-croyant et de devenir chrétien, ou l'inverse, car le baptême n'est pas une condamnation à perpétuité. Il est possible de parler une autre langue que sa langue maternelle. Il est possible d'avoir un métier qui n'est pas celui de ses parents. Il est possible d'avoir un modèle familial différent de ses parents. Et il est aussi possible d'être soi sans rester campé sur ses positions, sur ses convictions. Nous avons le droit de changer au cours de notre vie. Notre identité se joue dans notre manière d'habiter la maison, celle où nous nous tenons ici et maintenant. Alors, qui sont les véritables frères et sœurs de Jésus ? Eh bien là encore, il est intéressant de revenir au texte grec, qui n'apporte pas un contenu ou un message caché, mais il est des temps où il est bon d'entendre à nouveau de quelle manière la langue grecque nous offre les mots pour penser la vie. Les véritables frères et sœurs de Jésus, sa mère, sont ceux qui font la volonté de Dieu. Faire, en grec, c'est poiein, ce que nous entendons dans poésie, poète, poème. Ceux qui veulent être de la famille de Jésus sont donc appelés à poétiser la volonté de Dieu. Disons que les disciples de Jésus sont les poètes de Dieu. Et cela change beaucoup de choses par rapport à l'être chrétien, du moins par rapport à ce que nous entendons souvent. Parce que les poètes de Dieu sont donc ceux qui mettent en mots, en rimes, en rythme, non pas les paroles de Dieu, mais sa volonté. Il y a un écart important. C'est que la volonté, pour y avoir accès, suppose un acte d'interprétation. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné tout cuit, c'est quelque chose que nous devons élaborer nous-mêmes. Nous devons nous investir personnellement dans la quête de la volonté de Dieu, qui ne nous est pas offerte, pas même à travers les textes en l'état. Cela suppose donc un degré de liberté supérieur. Être de la famille de Jésus, ce n'est pas être les gardiens du texte biblique. Être de la famille de Jésus, ce n'est pas être les gardiens de la tradition. Il ne s'agit pas de garder. En hébreu, on aurait shamar. Il s'agit de poétiser la volonté de Dieu. Ne pas répéter inlassablement, mais injecter sa touche personnelle, sa nouveauté, son ridouche. Ce que fait le poète, c'est de voir le monde, de voir au-delà de l'horizon, disait l'autre, et d'y discerner le désir, d'y discerner la vie qui est en train de jaillir. Relisons les théologiens poètes comme Emerson pour voir à quel point la nature, le monde, l'histoire sont les théâtres d'une théologie qui discerne une volonté, un désir qui est en train de voir le jour. Le poète est celui qui restitue la vie dans toute l'étendue de ses possibilités, parce qu'il arrive à débusquer la vie partout où elle pointe le bout de son nez. Le poète, contrairement à celui qui est fasciné ou désabusé par la vie et qui ne voit que les choses dans leur répétition, voit ce qu'il y a de nouveau, voit ce qui est potentiellement nouveau, voit ce qui peut advenir et devenir. Être disciple de Jésus, ce n'est pas autre chose selon l'évangéliste Marc. Discerner cette volonté de Dieu, c'est entendre dès les premières pages de la Genèse ce désir de rendre le monde vivable, par exemple. Ce poème, ce grand poème qui ouvre la Bible, Genèse 1, parle de la manière qui nous est offerte pour que tous les germes de vie puissent éclore. Il ne s'agit pas de fabriquer le monde, il s'agit de le poétiser. Poétiser les lieux de vie, poétiser les projets, poétiser les conflits, poétiser les souffrances et les échecs, poétiser les relations personnelles, poétiser le quotidien, poétiser notre identité. Notre identité qui n'est donc pas figée en un état définitif. Poétiser, c'est le contraire de saisir. Les parents de Jésus veulent saisir Jésus pour le maintenir au sens littéral du terme. Le poète caresse la vie pour la stimuler, pour la ressusciter. Le poète est plus que ce que disait Baudelaire de mémoire quand il parlait de l'éloge des voleurs de feu. Le poète est celui qui souffle sur les braises. Le poète, c'est celui qui souffle sur les braises du foyer. C'est celui qui souffle sur les potentialités de la maison. C'est celui qui attise le feu qui couve dans son lecteur, dans son auditeur, dans son interlocuteur. Ce feu qui couve en nous, ce désir ardent de mettre en rime paix et justice, amour et liberté, éducation et responsabilité, respect et enjoyment. Poétiser, c'est faire droit aux possibilités qui sont à notre disposition. C'est mettre en œuvre les interactions possibles pour embellir notre maisonnée. Et parfois, c'est même changer de maisonnée pour entrer dans une maisonnée plus grande, pour élargir la fraternité, parce que nous nous découvrons, frères et sœurs, de plus que ce qu'on nous avait dit jusque-là. Oui, la foi chrétienne est l'histoire d'une révélation. Nous nous révélons plus grand que ce que nous imaginions jusque-là. Plus grand parce que inscrit dans une fraternité élargie. La foi chrétienne, de ce point de vue, s'est optée pour un autre référentiel que celui qui s'est trop souvent transmis de génération en génération et qui s'évertue à maintenir les choses en l'état. C'est opter pour un référentiel qui n'est pas aligné sur nos étroitesses d'esprit, mais qui se construit dans l'interaction face à l'ultime, face à l'absolu, devant Dieu. C'est adhérer à cette idée qu'appartenir à la famille chrétienne, ce n'est pas appartenir à une communauté étroite, ce n'est pas appartenir à une secte au sens sociologique du terme, c'est-à-dire un groupe coupé des autres. Ici, ce n'est qu'un tremplin vers une fraternité plus grande, une humanité élargie. Appartenir à la famille chrétienne, c'est se tenir à part des déterminismes. Amen.